Si je vous demandais ce matin, quand vous regardez dans le miroir, comme ce matin vous êtes levé, vous êtes-vous regardé dans le miroir? Combien se sont regardés dans le miroir ce matin? Il y en a-tu qui ne sont pas regardés dans le miroir ce matin? Ah, vous auriez dû. Non, c'est pas vrai, ça. Ah, ça, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Des fois, chez nous, on dit ça, c'est les jokes des Lavergne, tu sais, des jokes plates, là, qui ont, yes. Mais qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez dans le miroir? Voyez-vous quelque chose qui vous décourage? Des fois, hein? Surtout s'il y a de la grosse lumière, comme ce matin à le spot, là, puis comme je vous ai déjà parlé, qu'un miroir en plus grossissant, là, oh boy, hein? Alors, on peut voir une réalité qui est celle que le miroir nous reflète. Mais ce que je trouve d'intéressant avec Romains 8, c'est que Romains 8 nous révèle un autre miroir, une autre réalité, tout en nous la mettant en contraste, OK, avec la réalité très terre-à-terre, humaine, physique, d'un miroir là, qui reflète simplement ce qui peut être devant, qui est la réalité aussi de ce que notre vie sur Terre est, avec tout ce que ça veut dire. Mais il y a aussi un autre miroir, ça c'est le miroir de l'Évangile, le miroir du christianisme. Et c'est pour ça que la thématique que j'ai commencée avec Romains 8, puis on enchaîne avec Romains 7, mais c'est cette idée de c'est quoi le christianisme essentiellement. Lorsqu'on regarde là, fondamentalement, si on enlève toutes les choses autour de décoration qu'on pourrait dire, mais il reste quoi là? C'est quoi le cœur du christianisme? Et là, je vous l'avais résumé lors du premier message en un seul mot, qui est dans le mot christianisme. C'est une personne et c'est Christ. Et malheureusement, il y a cette réalité qui existe, il y a un christianisme de plus en plus, et là, on parle plus d'une religion, un christianisme qui est sans Christ. Et lorsque tu regardes, là, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de décorations, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'accessoires, et ainsi de suite, et même des reliques, mais ça n'a rien à faire avec le christianisme. Et là, on peut être dans un endroit où, soi-disant, c'est le christianisme qui est promu, enseigner, montrer, déclarer, mais pourtant, il n'y a pas le fondement même de ce que c'est ou de ce que ça devrait être, le christianisme. Et ça, c'est même quand Joël a fait la série dans Apocalypse, qu'on voit les sept églises de l'Apocalypse, on voit même ces avertissements du Christ lui-même à ces églises du début, là, de fraîche, quasiment, là, du jour, qui déjà commençait à manquer le but, manquer l'essence même de ce que c'est que le christianisme. Oui, si, oui, vous avez, je vous loue pour ci, oui, je vous loue pour ça, mais ce que je vous loue pas, et là, par exemple, avec la première église qui était à Éphèse, c'est votre premier amour. Il n'est plus là. Là, on dit, comment est-ce qu'une église peut exister sans avoir un attachement profond pour son fondateur, pour le Christ lui-même. Et c'est tellement possible de vivre ça. Et à certains égards, si vous êtes comme moi et que vous avez de l'âge un peu et que vous avez du millage dans votre vie comme nouveau-né, comme chrétien, on peut facilement aussi, nous aussi, voir qu'à un moment donné, on avait besoin de ce qu'on appelle repentance ou ce qu'on appelle réveil ou ce qu'on appelle à un moment de rendez-vous personnel avec Dieu pour qu'il vienne rafraîchir l'essence même de pourquoi qu'on est là et qu'est-ce que c'est que le christianisme. Donc, une brève revision des quatre premiers messages. Le premier, c'était, le voyez-vous comme faux, oui, c'est bien. Alors, aucune condamnation, versets 1 à 4. Notre union avec Christ, et ça ici, c'est la phrase clé qui revient avec chacune, il y en a 9 en tout, là, caractéristiques du vrai christianisme, mais notre union avec Christ nous assure, premièrement, d'une pleine justification et d'une pleine sanctification. C'est pour ça qu'il n'y a aucune condamnation. Parce qu'on est en Jésus, en notre union avec lui, on est justifié et même on est sanctifié. Parce que la sanctification, c'est la sainteté. C'est d'arriver à la sainteté et cette sainteté même qui est caractéristique de Dieu. En Christ, vous savez, on est non seulement justifié, c'est-à-dire pardonné de nos péchés, mais on est aussi transformé, emmené à être comme Christ, saint comme Dieu lui-même est saint. Deuxième vérité, Romains 8, 5 à 9, c'est qu'il n'y a aucun vide. Avant de connaître Christ, il y avait un vide. Maintenant, une fois unis à Christ, ça nous assure la présence permanente de l'Esprit. Ça, c'est vraiment important. Autrement dit, l'Esprit, il voyage pas, là. Il vient un bout de temps, puis il vient pas. Comme on voit dans l'Ancien Testament, où le Saint-Esprit venait sur des personnes, puis après ça, oups, il était plus là. Pourquoi? Mais il n'habitait pas les croyants de l'Ancien Testament. Ça, c'est une vérité, une réalité de notre union avec Christ. Le Nouveau Testament nous dit que le Saint-Esprit vient résider en nous. Donc, on est le temple du Saint-Esprit. Alors, c'est nous maintenant où Dieu réside, c'est en nous. Puis même dans le chant « La nature parle de Créateur », il y a une petite phrase qui est vraie, mais le christianisme est encore plus vrai que ça, que ce que la phrase disait. Avez-vous remarqué? Et là, j'oublie la phrase exacte, là. Tu sais, quand il dit qu'il est avec moi ou il est avec... Il est tout près de moi. Chaque jour, à chaque heure, il est là. Et sur son chemin. Il est de mes pas. OK, alors c'est pas celle-là. Il y en a un qui dit, c'est ça, là. Il est... Non, mais à chaque jour, il est... Non, il vit tout près de moi. Il vit tout près de moi. C'est merveilleux, hein? Il vit tout près de moi. C'est vrai? Mais là, le christianisme dit quoi? Va plus loin encore. Il vit au-dedans de moi. On devrait changer les paroles. On a le choix de faire ça. Hein? Il vit au-dedans de moi. Hein? Ça, c'est encore plus beau que « Il vit tout près de moi. » Ça, c'est un époux ou un ami ou un mari ou une épouse qui vit à côté de nous. Mais Jésus, lui, il vit même en nous. C'est extraordinaire. C'est fantastique. Donc, partout où je vais, tout ce que je suis, et ainsi, il est toujours, toujours là parce qu'il est là à travers son Saint-Esprit. Il a dit, je vais vous donner un autre consolateur comme moi. Et lui, l'avantage qu'il va avoir, comme Jésus, là, il était là avec eux physiquement, donc il était à côté d'eux, au devant d'eux, toujours là pour les défendre et ainsi de suite. Mais là, il dit, le Saint-Esprit, il le dit Jésus, il va résider en vous. Ça, c'est la vérité du christianisme. Donc, la présence permanente de l'Esprit en nous et une affection même nouvelle pour Dieu, pour sa loi aussi, et un triomphe sur la chair, à cause de la présence du Saint-Esprit en nous. C'est ça le vrai christianisme. Troisièmement, aucun cul-de-sac, Romains 8, 10 à 13. Alors, notre union avec Christ nous assure de quoi? D'une infusion de la vie de Dieu en nous, une inclinaison nouvelle dans notre âme, et une résurrection de notre corps. Donc, on s'en va dans une direction. Puis pour nous, la mort, c'est pas la fin. Au contraire, il n'y a pas de cul-de-sac. On n'arrive pas à un moment donné, puis c'est fini. Non, 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 ça continue. Et ça continue pour l'éternité. Et c'est ça qui est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et quatrièmement, aucun déshéritement. Loin de là, Romains 8, 14 à 18, notre union avec Christ nous assure une adoption dans la famille de Dieu. Donc, on est enfant de Dieu. Quand vous vous regardez dans le miroir, voyez pas juste la réalité que vous êtes un être humain, un Québécois qui vit, un Canadien qui vit en 2000, on est en quoi là, 2021, hein, c'est ça? Ah, 22, hey, on est rendu en 2022. c'est mon âge. Excusez-moi, c'est mon âge. J'ai de la misère à retenir. On dirait que le temps s'est arrêté pour moi. Je veux pas avancer, là. Ça va trop vite. Alors, on est un enfant de Dieu. On fait partie de la famille de Dieu. Et avec ça, parce qu'on est enfant de Dieu, ben, on est dans le testament. On a un héritage que Dieu a prévu pour ses enfants. Et ça, c'est fantastique. Et là, on va dans Romains 8, 18 à 25, où là, ça nous parle qu'il n'y a aucune vanité. Avez-vous l'image de la vanité? Pour moi, ça représentait Las Vegas. Alors, il n'y a rien de plus vain que Las Vegas. Il y en a qui aiment ça aller là parce que c'est la ville du plaisir et de tout qui est permis, et ainsi de suite. Mais ça, c'est de la vanité. Alors, Paul, en Romains 8, 18 à 25, parle non seulement de souffrance, il parle non seulement de vanité, il parle non seulement de servitude ou d'esclavage et de corruption. Ça, c'est une partie qu'on peut voir dans le miroir quand on se regarde. OK? Mais l'autre miroir, c'est que Paul nous parle aussi et surtout de quoi? De gloire qui s'en vient, d'espérance, de prémices de l'esprit, de liberté, de soupir, d'attente, d'adoption, de salut et même encore de rédemption de notre corps comme étant une réalité incontournable du vrai christianisme. Donc, on peut voir un miroir, mais il faut le voir à la perspective de l'autre miroir qui est beaucoup plus important pour ceux qui sont unis à Christ, en Jésus-Christ, et que Jésus est venu faire résistance en eux. Alors, les versets 18 à 25 ont été écrits pour nous aider à persévérer dans la foi et à ne pas jeter la serviette lorsqu'on est découragé en regardant dans le miroir naturel, mais plutôt de rester ferme dans notre union avec Christ, et ça, peu importe les frustrations et difficultés de la vie, et Dieu sait qu'il y en a énormément, n'est-ce pas? Et si on regarde un peu les nouvelles, c'est incroyable comment que on s'en va pas dans la bonne direction, ça c'est clair. On ne doit pas oublier notre espérance en Christ, car elle nous conduira tout droit à la gloire. Et ça, c'est un cadeau que Dieu nous donne de pouvoir avoir cette espérance. Donc, notre union avec Christ nous assure, dit Paul, un sens à notre vie. Et un bienfait spirituel sur tout ce que nous vivons ici-bas, même dans les difficultés, même dans les épreuves, même dans la souffrance, même dans les choses qui sont vaines, dans la réalité de cette vie. Dieu, lui, a un cadeau qu'il veut nous partager à travers toutes ces choses-là, qui en elles-mêmes, si on n'a pas Dieu ou si on n'a pas Christ, ben là, c'est sûr que ça fait aucun sens. Et là, pour Paul, quand il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation », bien ici, Paul aussi aurait pu écrire « Il n'y a donc maintenant aucune vanité pour ceux qui sont unis à Christ ». Romains 8, 18 à 25, on va lire le texte. 18, « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et quoi ? La gloire à venir. Donc, les souffrances du temps présent, c'est le miroir que vous avez dans votre salle de bain. Et la gloire à venir, bien ça, c'est le miroir que vous avez en Jésus-Christ. C'est ça qui s'en vient et qui sera révélé pour nous. Verset 19. « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qu'il y a soumise. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. » Donc, même la création va être libérée de cette vanité. Verset 22, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant quoi? l'adoption. On est déjà adopté, mais là ici, il est en train de faire référence à la réalité de ça, de cette adoption, à la rédemption de notre corps. Verset 24, « Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Que vous attendez avec persévérance le retour de Christ, la résurrection de votre corps, la pleine libération, le nouveau miroir, le vrai miroir, celui qui va demeurer pour l'éternité, bien c'est la perspective que Paul nous donne ici. Et là, juste pour nous aider à comprendre tous la même chose, il y a trois mots importants que je veux juste définir. Donc, premièrement, la vanité. Alors, le mot vanité peut avoir le sens de dépourvu de force, de vérité, de succès et de bienfait. Et là, avec ça, perversité, fragilité, dépravation. Donc, on comprend, là, ça fait partie de cette réalité que l'on a sur cette terre. Et c'est aussi l'idée de ce qui est inutile, qui sert à rien et qui est incapable d'atteindre le but fixé. OK? Alors, ça, c'est la réalité. Et là, il y a un livre qu'on connaît tous, qui est le livre dans l'Ancien Testament de l'Ecclésiaste, qui exprime la futilité des tentatives humaines de trouver leur satisfaction loin de Dieu. Autrement dit, loin de Dieu, sans Dieu, qu'est-ce que dit l'Ecclésiaste? Vanité des vanités, tout n'est que vanité, c'est du vin, c'est futile, ça amène à rien, ça s'en va nulle part. Imaginez-vous là, tous ceux qui ont fêté la Saint-Jean, là, puis qui se sont donnés à cœur joie, là. Let's go! Puis ah ouais, non, puis un autre, puis ah ouais, tu sais, bon, tu sais, vous comprenez, là? Qu'est-ce que vous pensiez qu'il y avait de l'air, là, le lendemain matin? Hein? Puis là, c'est à recommencer, comprenez? Parce que ça, la joie, c'est juste là, là. C'est à ce moment-là. C'est l'euphorie, c'est le fun, il n'y a plus rien qui existe. La vie est belle, c'est fantastique, j'ai plus de dettes, tout est beau. Blablabla, je suis gelé, je suis sous, ah ouais donc. Puis là, whoop, la réalité revient parce que les factures sont encore là, les dettes sont encore là et ils se regardent encore dans le miroir. Puis là, ils disent, mais ça donne quoi cette vie-là? Pourquoi qu'au Québec, on est, par rapport au Canada, la province où il y a le plus de suicides. Mais on est aussi la province où il y a le plus de fêtards. Au Québec, on aime fêter, selon, j'ai vu ça, Code Québec, là, avec, comment il s'appelle, là, le Léger, là, qui parle de ces affaires-là. Alors, on serait la province championne des parties, puis on aime party, on aime fêter, on aime avoir du fun, on aime les festivals pour rire, on aime... comprenez? Ces affaires-là culturelles, là, c'est fantastique, c'est merveilleux. Puis en même temps, on est la championne au niveau, justement, des suicides, au niveau de la consommation, des antidépresseurs, des anxiogènes, de toutes ces affaires-là. Vous voyez, il y a un mal de vivre qu'on essaye d'engourdir, qu'on essaye de calmer, mais sans Christ, il n'y a pas d'espoir. Et là, je ne dis pas que comme chrétien, né de nouveau, où Jésus réside en nous, que nous, on est exempt de ces choses-là. Non. Il y a des chrétiens qui ont de l'anxiété. Il y a des chrétiens qui font des dépressions. Il y a des chrétiens qui ont des problèmes divers, qui souffrent, qui ont des maladies, qui ont ci, qui ont ça. Mais c'est quoi la différence? C'est qu'on n'a pas juste ça. On a quoi? On a l'espérance que la vie ici-bas est temporaire. Et ce qui s'en vient, c'est permanent. Et ça ne change rien au fait que Christ est en moi. Et là, comme chrétien, quand je vis des choses comme ça, parce que moi aussi, j'en vis, comme vous tous, là, des moments difficiles, des moments où je me lève, puis il y a une vague de je ne sais pas trop quoi, puis je ne comprends même pas qu'est-ce qui se passe. Là, je sens quelque chose qui me monte en dedans de moi, puis là, je dis, ah, Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Puis, Là, j'envisage la retraite. Là, oh, puis là, qu'est-ce qui va arriver? Puis là, oh, puis là, puis, oh, puis là, oh. Et là, comprenez? Hein? Oh. Un peu comme quand j'ai sauté en parachute, là, c'est comme... Hey, c'est haut!
J'espère que le parachute va s'ouvrir, Seigneur. En tout cas, je m'en viens si tu me veux, là. Mais j'espère que le parachute va s'ouvrir quand même. Vous comprenez? On a ces montages d'émotions, de choses qui nous montent en dedans. Mais là, moi, ce que je trouve fantastique, c'est que là, Seigneur, là, j'ai besoin de toi. Seigneur, là, en dedans de moi, là, je vis des choses, là, j'ai des pensées ici, là, je comprends pas, je peux pas tout savoir ce qui s'en vient. Puis là, tout à coup, le Saint-Esprit commence à me ramener un verset, à me ramener une promesse, à me ramener, mais moi, je m'en vais vers l'éternité, Jésus est vivant, il est là, il vit à côté de moi, il vit en moi. Je n'ai rien à craindre. Et là, tout à coup, la paix de Dieu s'installe. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert mon cœur, j'ai parlé à mon Sauveur, j'ai dit qu'est-ce que je vivais, les choses qui me passaient à travers mon cœur et tout ça. Et puis là, il me rencontre par son Saint-Esprit qui vient en moi, par sa parole qui est la vérité, par le miroir de l'éternité qui s'en vient, de qu'est-ce que c'est le vrai christianisme. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de Christ, de mon Sauveur qui vit en moi. Mais c'est lui qui fait la différence dans ma vie. Et ça, c'est fantastique. Fantastique. Prémisse. Le mot prémisse veut dire les premiers fruits de la récolte qu'on offrait à Dieu, comme dans Exode 34, 26, Romains 11, 16. Ce mot est employé pour parler de la présence de l'Esprit de Dieu dans le cœur du croyant comme premier fruit de l'œuvre de Dieu en nous, et aussi comme un gage, comme un premier versement, une garantie de ce que Dieu va faire. Donc, il m'a justifié, mais il va aussi me sanctifier. Il va aussi me ressusciter. C'est lui qui fait ça. Et là, pour me le démontrer, pour me rassurer, ben il m'a donné son Saint-Esprit. Et on a vu que par ce Saint-Esprit-là, ben il va rendre témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu en moi. J'ai pas à me convaincre de ça, là. C'est pas moi qui travaille sur moi-même, comme la pensée positive. Non, c'est l'œuvre de l'Esprit, parce qu'il est venu résider en moi. Et là, il fait des choses en moi que moi, je fais juste de constater. Hey, moi, j'aime jardiner, là. J'aime surtout voir ma femme qui est en train de jardiner. Alors, moi, je prépare tout, là. Ma femme, elle sort, il fait chaud, là, tu sais, puis elle s'en va dans le jardin, puis tout ça, puis du désherbage, puis tout. Hey, moi, je suis là, puis faut que j'attende que le soleil soit couché, puis là, ça soit à l'ombre, et ainsi de suite. Mais j'aime quand même le principe du jardin. Mais ce que j'aime voir, là, comme là, j'ai vu mon ail pousser. Hey, quand c'est arrivé, là, tu sais, la fin du mois d'avril, début mai, et là, ça commençait à pousser des belles petites pousses, tu sais. La neige vient à peine de fondre, et là, je vois de la vie. Hein? Et ça, c'est quoi? Mais ça, c'est les premiers, l'œuvre de la vie, que là, oui, ça a pogné. Quand j'ai ensemencé au mois d'octobre, bien là, ça a pogné, c'est bon. Puis là, si vous verriez mon ail, vous seriez dit, wow, c'est la plus belle année que j'ai de l'ail cette année. C'est incroyable comment est-ce que mon ail est superbe. Mais là aussi, on voit pour les tomates, on voit pour les cocombes, on voit pour les petits pois, on voit pour les framboises, toutes ces petites choses qui sortent, là, c'est les premiers fruits. Avant même du vrai fruit, qui nous annonce qu'il va y avoir du fruit, il va y avoir un produit, hein, il va y avoir des cocons, il va y avoir des tomates, il va y avoir toutes ces choses-là. Donc ça, c'est exactement les prémices de l'Esprit. C'est ça que Dieu nous montre. Regarde, il y a du fruit dans ta vie, il y a quelque chose qui se passe. Ah, as-tu vu que tu as accepté Jésus, tu as arrêté de sacrer? Toi, tu n'en es même pas aperçu, c'est les autres qui t'ont dit, « Hey, tu ne sacres plus, qu'est-ce que je ne sacre plus, sacrerais-tu? » Mais t'as, ouais, toi, tu sacrais pingue un peu. Sérieux, voyons, là. T'as dit, hey, il n'y avait pas un mot qui sortait pas par sans l'autre, il y avait un sac entre les deux. Ouais. Eh bien, c'est pas ça. Là, à un moment donné, il y a des choses qui changent. Là, tout à coup, mes goûts changent. Là, avant ça, j'avais du fun là-dedans. Là, j'ai plus de fun là-dedans. Là, c'est quoi qui s'est passé? Ça, c'est l'Esprit qui est venu prendre sa résidence. Et qui, là, t'emmène à vouloir des choses que tu ne voulais pas avant, à aimer des choses que tu n'aimais pas avant, et à plus aimer des choses que tu aimais avant, puis que là, tu dis, mais c'est quoi ça? Je ne veux rien savoir de ça. Je ne me tente plus, moi. J'ai plus de goût là-dedans. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Là, ça continue comme ça. Au fur et à mesure qu'on avance. Ça, c'est la présence de l'Esprit en nous. Rédemption. L'autre, le troisième mot. Alors, on entend parler souvent de rédemption, mais c'est l'idée du rachat. Hein? Et là, on faisait beaucoup ici en rapport, par exemple, avec l'esclavage, où l'on pouvait racheter, mais c'est l'idée du rachat, de la rédemption, donc qui est un acte juridique et aussi spirituel qui était prescrit dans le Pentateuque. C'est là qu'on voit l'idée du rachat qui est apparue. C'est l'acte qui permet de libérer un esclave, une personne ou même un animal en offrant comme rançon à sa place une autre victime, par exemple. On avait racheté les fils premiers-nés par un animal offert en sacrifice dans Exode 34:20 quand Dieu avait demandé cela. Alors, celui qui avait le devoir de rachat, on l'appelait comment? Lui, dans l'Ancien Testament, Dieu avait prévu ça. Il y a une personne qui lui est désignée comme étant dans la famille celui qui va avoir le devoir de rachat. Et on le voit avec le livre de Ruth. On voit qu'il y avait quelqu'un qui avait le droit de rachat. Et là, il fallait que, comment il s'appelle? Boaz aille voir ce monsieur-là, puis lui dise, « Est-ce que tu vas utiliser ton droit de rachat vis-à-vis le Goël? » Exactement, c'est le Goël, c'est lui qui avait le droit de rachat. Donc, il fallait toujours que celui qui avait le droit de rachat exerce son droit ou y renonce pour que, comme on a vu dans l'histoire de que Ruth rapporte, l'histoire de ce livre où on voit que Ruth a été rachetée par Boaz dans ce sens-là. Alors, le mot « rédempteur » est utilisé dans le Nouveau Testament pour parler du sacrifice de Jésus qui, en mourant sur la croix, a payé le prix de notre rachat afin de nous sauver, Romains 3, 24. Et on voit dans Romains 8, 23, la section dans laquelle on est présentement, que la rédemption à venir de notre corps désigne quoi? Le retour de Christ. Alors, c'est ça ici, le rachat ou la rédemption. C'est l'idée que aussi notre corps va être ressuscité, mais que ça va se passer au moment du retour de Christ. Voici une citation de John Piper que je trouve vraiment savoureuse. Et j'espère que vous allez l'apprécier autant que moi, je l'ai appréciée. C'est pour ça que je l'ai mis ici ce matin. Il dit ceci, « Notre glorification implique la rédemption de notre corps. » Donc, il faut passer par là. Il faut que notre corps soit racheté ou qu'il soit ressuscité, transformé, pour qu'on puisse être glorifié. Et là, il dit ceci, « C'est la base de notre capacité à jouir de notre héritage. » Donc, si vous trouvez des fois que vous arrivez avec difficulté à jouer pleinement de tout ce que vous avez en Jésus, de tout ce que Jésus vous a apporté, ben c'est parce que vous n'avez pas passé encore par la rédemption de votre corps. Vous êtes encore dans un corps mortel et vous avez de la difficulté à pleinement apprécier ce que Dieu nous offre et ce que Christ a fait pour nous à la croix. Et il continue en disant, « Si nous restions dans notre état actuel, que ce soit physiquement, émotionnellement, spirituellement, notre capacité à jouer des nouveaux cieux de la nouvelle terre et de Dieu lui-même serait pitoyable, limitée, très peu à comparer à... » Parce que là, on est encore dans cette réalité humaine et donc on a de la difficulté à saisir pleinement la réalité spirituelle de tout ce que Dieu nous donne en Christ. Ainsi, Dieu nous promet non seulement un héritage incomparable, ce qu'on a vu, mais de vastes et nouvelles capacités pour en jouir éternellement. C'est ce qui s'en vient. Et là, vous allez voir, ce qui s'en vient, ça va être, on va tomber littéralement sur le derrière. Hein? On va être estomaqué, sans mots. Et peut-être c'est pour ça qu'il dit qu'il va essuyer toutes larmes de nos yeux. Ce ne sera pas des larmes de souffrance. Ça va être des larmes de... Tu sais, quand des fois, on a des larmes d'admiration, d'être touché, tellement l'amour de Dieu est grand, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu. Et là, ça fait sortir des larmes de nos yeux. C'est pas des larmes de souffrance, c'est des larmes d'admiration, de joie, de contemplation, d'incrédulité quasiment, de dire, c'est-tu vrai? C'est-tu vraiment tout ça? Hey, incroyable! Puis là, peut-être qu'on va avoir un petit peu de regret, là. Hein? Oh, j'aurais donc dû, comment ça fait que, puis j'ai pas pensé que, puis j'avais de la misère avec ça. Qu'est-ce qui va se passer dans nos cœurs? Ça va être incroyable, mais c'est sûr qu'on va pleinement apprécier l'éternité parce que, justement, on va avoir passé par cette rédemption de notre corps. C'est ce que signifie être glorifié. Donc, nous avons besoin de capacités glorieuses pour jouir d'une gloire infinie. Et c'est ça un peu son point. Alors, trois leçons qu'on peut tirer de ces versets de Romains 18 à 25. La première, la souffrance, la vanité, la servitude et la corruption font partie de la vie des gens sur terre, incluant celle des enfants de Dieu. C'est pour ça qu'on se regarde dans le miroir et parfois on est découragé. Parce que la réalité, elle est là pour nous aussi. On est dans cette réalité de souffrance, de vanité, de servitude et de corruption. On n'y échappe pas. Dieu en a décidé ainsi et il le fait par décret divin. Certains sont devenus des déistes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en tout cas, un déiste, c'est quelqu'un qui croit en Dieu, dans le fond. Mais c'est un peu comme une vision spirituelle du monde. Donc, oui, Dieu existe, mais de manière à l'exclure de l'équation de la souffrance. Parce que ça ne se peut pas que Dieu puisse accepter la souffrance ou qu'est-ce qui se passe, laisser ça aller comme ça va, puis il n'intervient pas plus que ça, puis c'est ci, puis c'est ça. Ça crée un espèce de conflit intérieur là, pour ces gens-là. Fait que là, ils ont dit, ben regarde, moi je crois que l'univers a été créé par Dieu. Oui, Dieu existe, puis c'est lui qui est le créateur, il a créé l'univers. Mais il a fait ça comme si c'était une horloge qui doit fonctionner par elle-même sans interférence divine. Donc, c'est une horloge qui a été conçue de manière à fonctionner avec les lois naturelles et tout ce que ça, là, que ça vient ensemble, donc pour que ça puisse avancer, se perpétuer et tout ça. Et là, Dieu a laissé ça aller. Il l'a crinqué là, comme il faut là, pour que ça dure X milliers d'années. Il l'a crinqué, puis là, ça continue comme ça, puis lui, il est en dehors de ça. Tout ce qui se passe sur la terre est expliqué en termes de lois purement naturelles, sans intervention divine ou sans décret divin. Donc, Dieu se mêle pas de ce qui se passe sur la terre. S'il y a de la souffrance, c'est simplement dû aux hommes. Si ça arrête pas, c'est à cause que les hommes font rien avec ça. C'est les hommes qui sont responsables de tout. Dieu, lui, il s'est retiré, puis il regarde, il est spectateur seulement, mais il s'implique pas là-dedans. Sinon, pourquoi qu'il laisserait les choses aller de la manière que ça va? Donc, là, il y a un conflit pour eux autres. Alors, il aime mieux cette pensée-là. Pourtant, Paul dit bien que la création, ici, au verset 20, a été soumise à la souffrance, à la vanité, à la servitude et à la corruption. Elle a été soumise. Et non de son propre gré, dit Paul. Donc, c'est pas elle-même qui s'est soumise à ça, mais par celui qui l'y a soumise, Dieu lui-même. Il ne peut pas être plus clair que ça, là. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu a soumise la création à la souffrance, la vanité, la servitude, la corruption? Et il y a deux raisons. Premièrement, c'est comme conséquence au péché, à la rébellion de l'homme contre son Créateur, comme Romains 5, 12. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, c'est comme une résultante du péché, oui, l'homme fait partie de cette problématique. Et deuxièmement, Dieu a pas laissé ça là, mais c'était aussi avec une espérance, au verset 21, de la manifestation de la grâce de Dieu afin d'attirer les hommes à Christ. Donc, souvent, et c'est une réalité, là, c'est lorsqu'on est face à face avec la vanité, avec la souffrance, avec la corruption, que là, tout à coup, les hommes rentrent en eux-mêmes et là, ils se disent, y a-tu d'autres choses qui existent? Ma vie, ça vaut absolument rien, ça s'en va nulle part. Qu'est-ce qui se passe? Et plusieurs personnes qui sont venues à Christ sont passées par ça. Puis là, ils ont crié à Dieu. Si tu existes vraiment, ben révèle-toi, manifeste-toi. Et là, la porte était toute grande ouverte et naturellement, Dieu a intervenu. Alors, Jean 12, 32 à 33, Jésus disait, « Et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, en parlant quand il serait, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et par cette expression, Jésus faisait allusion à la manière dont il allait mourir. Donc, en étant élevé sur la croix, ça devenait le point de mire principal. Et par cette croix, Jésus allait attirer les hommes à lui. Donc, la raison aussi de la souffrance, c'est de permettre aux hommes de voir la souffrance de Dieu à travers son Fils Christ qui est mort à la croix. Deuxième, la création tout entière et l'histoire de l'humanité, de son début avec Adam jusqu'au retour de Christ, en sont infectées. Alors, on sait par les Écritures que la vanité, la corruption et la souffrance infectent la création et l'humanité depuis la chute d'Adam et Ève, comme on a vu dans Romains 5, 12 qu'on a lu tantôt. Toutefois, nous savons que les mêmes Écritures, que tout cela a déjà commencé à changer suite à la première venue de Christ. Donc, ça reste pas là. Là, on a Romains 5, 15, et que ça va même prendre fin lors de son retour, avec Apocalypse 21, 4, 5. Je vais vous lire Romains 5, 15. Paul dit ceci, « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute du péché. Car si par la faute d'un seul, Adam, beaucoup sont morts, donc ça s'est répandu sur toute l'humanité, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. » Et Apocalypse 21, 4 et 5, « Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois, c'est-à-dire, et là c'est moi qui l'ai rajouté, là, vanité, servitude, corruption et souffrance, a définitivement disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclare, « Voici, je renouvelle toutes choses. » Et il ajoute, « Écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. » C'est ça qui s'en vient. Vous savez, cette semaine, j'ai eu l'occasion de parler avec Linda au téléphone. On avait été la voir avec Christina la semaine d'avant à l'hôpital et on a eu un bon temps avec elle. Il y a une chose que j'ai vécue, à ce moment-là, excusez-moi, là, une chose que j'ai vécue, je n'avais jamais vécue avant, en allant voir quelqu'un qui est au seuil des portes de l'éternité, qui le sait aussi. Elle était déjà aux soins palliatifs. Mais après avoir parlé, j'ai dit, est-ce qu'on peut prier ensemble, Linda? Elle a dit, oui, elle dit, j'aimerais vraiment ça. Alors, on a prié ensemble, oui, on est allé dans la présence de Dieu. Et c'est un moment béni, vraiment. Et là, on a terminé. Et là, pour la première fois, en 40 ans de ministère, où j'en ai vu des gens mourir, puis là, je dis ça, parce que je ne suis pas en train de faire un reproche à personne. Là. Mais là, Linda, elle a dit, « Est-ce que je peux prier pour vous? » Et là, elle a prié pour nous. Elle a prié pour nos enfants. Et là, quand j'ai parlé avec elle cette semaine, elle dit, « Benoît, j'ai une question importante à te demander. » Et là, elle voulait prendre la bonne décision et elle voulait savoir quel serait l'impact de la décision qu'elle prendrait. Et là, on a regardé ensemble. Elle dit, « Là, je veux une réponse biblique. » Ça m'a fait plaisir. Je vais te partager ce que je comprends des Écritures par rapport à ta question. Et là, elle était contente. Elle riait. Il y avait Joanne Champagne qui était avec elle aussi. Puis là, elle a dit, « Benoît, la prochaine fois qu'on va se revoir, on va être dans l'éternité avec le Seigneur, aux noces de l'agneau. » Et là, je lui dis, je ne sais pas si on pourrait demander au Seigneur si on pourrait être assis proche l'un de l'autre. Je ne voulais pas faire l'erreur de Jacques et de Jean, de dire, Seigneur, on peut-tu être à ta droite puis l'autre à ta gauche? Là, je ne voulais pas être prétentieux comme ça. Mais je dis, peut-être que Seigneur il accepterait qu'on soit ici ensemble. Hein? Peut-être même toute notre église, on pourrait peut-être, dans l'éternité, avoir une table pour nous. Aimeriez-vous ça? Hein? Ça sera ça. Mais c'était de voir, là, tout à coup, autant elle avait des questions, autant elle avait des incertitudes, puis là, elle voulait être sûre, puis que là, plus la vérité de l'Évangile revenait. Qui est Jésus? Jésus vit en toi. Il n'y a aucune condamnation. Et ça, elle l'a dit 3-4 fois. Elle dit, il n'y a aucune condamnation. Non, il n'y a aucune condamnation. Elle dit, il n'y a rien que je peux faire qui pourrait m'emmener à déplaire le Seigneur, puis que là, il ne m'accepterait pas. Non, il n'y a rien que tu peux faire, Linda. Regarde, tout est couvert. Il est mort pour tous tes péchés. Et là, plus la vérité prenait racine en elle, c'est des vérités qu'elle connaissait naturellement, mais vous comprenez, dans les moments là, où tu sais que, et là, elle est présentement dans un coma, mais elle a tombé dans le coma et elle va partir dans la présence de son Sauveur. Elle était dans la joie. Et ça, c'est la vérité que l'espérance que l'on a en Jésus nous apporte. Troisièmement, l'union avec Christ nous assure, et ça c'était la déclaration du début, un sens à notre vie et un bienfait spirituel sur tout ce que nous vivons ici-bas. C'est notre union avec Christ qui suscite en nous l'espérance de l'adoption et la rédemption de notre cœur, de notre corps. Ça, c'est notre union avec Christ, c'est la réalité qu'il vit en nous. C'est pour ça que Paul va parler de gloire à venir comme n'ayant aucune mesure de comparaison avec les souffrances du temps présent. Il n'y a rien à comparer avec ça. C'est incroyable ce qui s'en vient au verset 18. Ensuite, il parle d'ardent désir, il parle d'attente et de soupir qu'il y a dans le cœur de ceux qui sont unis à Christ au verset 19, verset 22-23. Il parle des prémices de l'Esprit comme un gage, une garantie de notre héritage qui s'en vient. Il parle de même de libération de la création, de liberté glorieuse des enfants de Dieu qui s'en vient, d'adoption et de rédemption de notre corps, versets 21-23. Et il parle aussi d'être sauvé en espérance et de persévérance. On peut persévérer dans cette espérance, malgré la vanité, malgré la souffrance, malgré les difficultés et la maladie, et ainsi de suite. Alors, réflexion pour terminer. Savoir que notre union avec Christ nous assure un sens à notre vie et un bienfait spirituel sur tout ce qu'on vit ici-bas est une source de réconfort incroyable, inépuisable face à la souffrance, la vanité, la servitude et la corruption, car elles peuvent toutes être recyclées à la gloire de Dieu. Imaginez-vous, Dieu est dans le recyclage. Hein? Et il n'y a rien qui est gaspillé. Dans nos vies, dans la vie d'un enfant de Dieu, Dieu ne gaspille rien de ce qu'on vit. C'est pour ça qu'à un moment donné, quelqu'un avait dit, « Gaspille pas ton cancer. » Hein? Qu'est-ce que tu veux dire, « Gaspille pas mon cancer. » Mais Dieu te fait la grâce de passer à travers une épreuve, puis il va être là avec toi. Et tu vas goûter à quelque chose de Dieu que tu n'as peut-être jamais goûté encore dans ta vie. Une proximité de sa présence, de sa puissance, de son amour, parce que tu passes justement à travers ça. Puis ce qui se passe souvent dans ce temps-là, c'est que notre cœur s'ouvre grand même. Que tout à coup, là, le fait que la tondeuse est brisée, le fait que le sous-sol n'est pas fini, le fait que je ne sais pas trop quoi, là, qui nous préoccupe, puis qu'on a des soucis à gauche, à droite, et ainsi de suite, tout à coup, tout ça, là, ça fond comme de la neige au soleil. Et là, tout à coup, la réalité de ce qui s'en vient est devant mes yeux, et la réalité de Christ qui est là avec moi est aussi très, très grande. Alors, la bonne nouvelle est que notre union avec Christ nous assure quoi? Qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation, qu'il n'y a donc maintenant aucun vide, qu'il n'y a donc maintenant aucun cul-de-sac, qu'il n'y a donc maintenant aucun déshéritement, qu'il n'y a donc maintenant aucune vanité et le prochain, il n'y a donc maintenant aucun abandon, verset 26 à 27. Impossible. Aucun abandon. Dieu nous abandonnera jamais. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas, dit l'Éternel. Et ça, c'est une promesse de Dieu. Et là, je vais terminer avec un extrait du chapitre 23 du livre de Dane Ortlund, Doux et humble de cœur. Le chapitre 23, c'est le titre du chapitre, c'était Enfoui dans son cœur pour toujours. Si les mortels disent de certaines souffrances, aucun bonheur futur ne peut les compenser. Impossible. C'est trop dur. C'est parce qu'ils ne savent pas que les cieux, une fois que nous y serons parvenus, pour ceux qui, naturellement, sont en Christ, opéreront rétrospectivement et changeront ces tourments en quoi? En gloire! Tout ce que la vanité, la souffrance et les difficultés et tout ça de cette terre va être transformé, donc recyclé en gloire. Si vous êtes en Christ, il vous a rendu éternellement invincible. Amen. Éphésiens 2, 4 à 7 fait comprendre que Dieu redonne vie aux morts et non qu'il porte assistance seulement aux blessés. Et comment nous rend-il vivants? Selon John Owen, il dit ceci, « Il nous aime d'un amour qui procure la vie. » C'est son amour qui fait la différence. Sa puissance résurrectionnelle qui pénètre les cadavres, c'est l'amour même de Dieu. Incroyable. Éphésiens 2, 7 indique que votre mort n'est pas une fin, mais un commencement. Non pas un mur, mais une porte. Non pas une sortie, mais une entrée. Amen. Amen. Dans le cas de ceux qui ne sont pas en Christ, oui, la vie actuelle est la meilleure qu'ils ne connaîtront jamais, parce que qu'est-ce qui s'en vient? C'est horrible et c'est terrible. Et quand on entend des fois, c'est l'enfer là, sur la terre, non, c'est de la petite gomme, là. C'est rien, là. C'est rien. Mais en même temps, c'est le mieux que ceux qui sont en Christ vont connaître. Les petits bonheurs sur cette terre, les joies, les si, les plaisirs. Dans le cas de ceux, par contre, qui sont en Christ, pour qui Éphésiens 2, 7 constitue la panorama qui les attend au prochain tournant, cette vie sur terre est la pire qu'ils ne connaîtront jamais. Et là, voici, il cite Jonathan Edwards, qui parle justement de qu'est-ce qui s'en vient, de ce nouveau miroir qui est le nôtre, le matin de la résurrection. Lorsque le soleil de la justice paraîtra dans les cieux, brillant de tout son éclat et de toute sa gloire, il s'avancera comme un époux. Il viendra dans la gloire de son Père avec tous ses saints anges. Ce sera effectivement une joyeuse rencontre entre ce glorieux époux et son épouse. Puis l'époux paraîtra dans toute sa gloire, sans aucun voile. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, quand ils se tiendront à la droite de leur Rédempteur. Ensuite viendra l'heure où Christ invitera doucement son épouse à entrer avec lui dans le palais de sa gloire, qu'il a préparé à la recevoir depuis la fondation du monde. Il la prendra par la main, pour ainsi dire, et il la conduira à ses côtés. Et ses glorieux époux et épouses monteront ensemble avec toute leur parure dans les cieux des cieux. Toute la multitude des anges glorieux les servira. Et ce fils et cette fille de Dieu se présenteront ensemble dans leur gloire et leur joie réunis devant le Père. Et Christ déclarera, « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ils recevront ensemble au sein de cette relation et de cette union la bénédiction du Père. Et ils se réjouiront dès lors ensemble dans une gloire parfaite, ininterrompue, immuable et éternel, dans l'amour et l'étreinte l'un de l'autre, et ils jouiront ensemble de l'amour du Père. C'est ce qui s'en vient, frères et sœurs. Prions ensemble. Je vais inviter l'équipe, ou Fabien, la grosse équipe. Merci, Fabien. On peut se lever peut-être pour prier ensemble, OK? Allons dans la présence de Dieu. Alors, Seigneur Jésus, oui, on se présente devant toi ce matin. Merci, Seigneur, que tu nous offres cette espérance vivante. cette réalité que tu vis en nous et que ça, c'est l'espérance de la gloire. C'est ce mystère qui était caché autrefois qui maintenant a été révélé à nous qui sommes ici maintenant. Que tu vis en nous, puis parce que tu vis en nous, tu as mis de l'espérance en nous. Tu as mis la vie en nous, tu as mis ton Saint-Esprit en nous. Tu nous as donné maintenant une nouvelle vie avec laquelle on a une nouvelle inclination, un amour pour toi, un amour pour ton Père, un amour pour même ta loi, avec même une force de pouvoir justement vivre en nouveauté de vie et d'être libéré du péché et de pouvoir vivre, Seigneur, en espérance de ce qui s'en vient, malgré la souffrance, malgré les épreuves, malgré les difficultés que l'on vit tous, Seigneur, avec des hauts et des bas. Seigneur, on n'est pas tout seul. Tu es avec nous, tu es en nous. Et Seigneur, même si on tombe souvent, même si on s'enfarge, même si on est déçu de nous-mêmes ou qu'on déçoit les autres, Seigneur, tes bras sont tout le temps grand ouverts pour nous accueillir, pour nous rassurer, pour nous dire, je suis là pour toi. J'ai tout accompli pour toi. Je vais être là pour toi, je vais t'aider. Et tu vas l'avoir, la victoire. Elle est déjà là. Même si là, présentement, c'est pas facile. Seigneur, tu vois les difficultés de nos cœurs. Seigneur, on peut compter sur toi. On peut compter sur ton amour, sur ta fidélité. Seigneur, ce qu'il y en a ici ce matin ou qui écoutent sur Internet, ce qu'il y en a, Seigneur, qui sont découragés. Tu regardes juste dans le miroir qui reflète simplement une réalité qui est vaine, qui n'a aucun sens, qui s'en va nulle part, qui a juste une détérioration, une déchéance. Seigneur, est-ce que tu peux les emmener à lever les yeux vers cet autre miroir, ton visage, Seigneur? Et qu'est-ce qui apparaît sur ton visage, si ce n'est pas, Seigneur, le fait qu'on est les bienvenus auprès de toi, que tu es mort sur la croix, que tu nous aimes et qu'il n'y a rien qui peut changer cet amour-là que tu as pour nous? Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, les yeux de nos cœurs, pour que, Seigneur, on puisse se tourner vers toi, qu'on puisse laisser justement ta parole, qui est la vérité, pénétrer profondément dans nos cœurs et nous laisser être aimés par toi, Seigneur, être touchés par toi, être revigorifiés par toi, Seigneur, pour que nos yeux aient encore de l'espoir, que nos yeux se tournent vers toi à nouveau et qu'on saisisse la grandeur de l'appel que tu nous as fait. Et que cette vocation, Seigneur, il n'y a rien qui peut y changer parce que c'est toi qui nous l'as placé, c'est toi qui nous l'as amené. Et c'est toi, Seigneur, qui va nous prendre et qui va nous emmener jusqu'au bon port. Alors, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois avec chacun de nous, sois avec chacun de ceux et celles qui est découragé, qui a perdu peut-être de vue son espérance et la gloire à venir. Seigneur, ramène-la à toi, ramène-la à la vérité de ta parole. Touche son cœur. Dépose par ton Saint-Esprit dans son cœur ta joie, ta paix, ton pardon, et que, Seigneur, il puisse te louer à nouveau. Et s'il y a quelqu'un, Seigneur, qui ne t'a pas accepté encore dans sa vie, qui ne s'est pas tourné vers toi, qui n'a pas cette espérance, il ne t'a jamais invité à venir dans sa vie, Seigneur, ce matin, peux-tu ouvrir son cœur pour qu'il dise, Seigneur Jésus, viens, viens dans ma vie, viens, oui, je t'accepte comme mon sauveur personnel, oui, je t'invite à prendre ma vie. Je t'invite, Seigneur, à me donner cette espérance, à ce que ton Saint-Esprit vienne habiter en moi, vienne me libérer de toutes sortes de difficultés que j'ai, vienne ramener mon âme à la surface et me donner une espérance qui est vivante, parce que je sais que tu es vivant et qu'il n'y a aucune vanité maintenant pour moi, que tout ce qui m'arrive, même les difficultés, même les épreuves, même la maladie, tout ça, Seigneur, tu vas le transformer pour la gloire de ton nom et pour mon bien personnel. Alors, Seigneur Dieu Tout-Puissant, touche son cœur, attire-le à toi, attire cette personne à toi, Seigneur, pour la gloire de ton nom. C'est en toi, Jésus, que j'ai prié, pour ta gloire. Amen.